Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre. 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde. Bienvenue à Radio Free Gaza. Je pense le 20e épisode.
Tu es sûr?
C'est à vérifier. Mais je pense, logiquement, oui. En tout cas, comme d'habitude, nous allons d'abord avoir une participante de la délégation belge de la flottille avec nous. Donc, on essaye de l'appeler. La connexion n'est pas toujours facile, donc je pense qu'on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui.
Il faut dire peut-être que la flottille est partie il y a quelques heures. Donc, ils sont en train de quitter le sud de la Sicile et donc ils s'éloignent des côtes pour descendre plus vers le sud avant de pouvoir reprendre le chemin vers la Méditerranée, vers la Grèce et puis de continuer le chemin vers Gaza. Et donc à la fois les systèmes GPS et les systèmes Internet sont parfois entrecoupés de moments où ça ne fonctionne pas, surtout quand on s'éloigne des côtes. Donc c'est pas inhabituel.
Voilà. Donc nous allons passer à l'entretien du jour. Ouais. Aujourd'hui, c'est avec Elena Aoun, qui est professeure à l'UCL. Il y a juste un petit détail. Donc, pour l'entretien, il y a un bug dans le fichier. Le tout début a sauté, mais je vais vous le raconter avec l'accord de Madame Aoun. Je lui ai demandé la permission. Donc, Elena Aoun est professeure à l'UCL, entre autres. Elle va nous expliquer... Pour commencer, en tout cas, les différents moments où on aurait pu envisager une paix en Palestine. Donc, on lui avait demandé pourquoi est-ce que ça tourne toujours mal, en fait, les accords de paix pour les Palestiniens. Et elle fait le tour, en fait, à partir de 1948. Mais elle va nous raconter ça elle-même.
Alors, le premier temps, bien sûr, c'est au moment de la... du plan de partage entre population arabe et population européenne juive dans la Palestine mandataire. Et comme on le sait, c'est un épisode qui s'est conclu avec la Nakba, la création de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, on aurait pu imaginer une communauté internationale avec une toute jeune organisation des Nations Unies qui fasse le nécessaire pour gérer la problématique des réfugiés, pour se donner les moyens de trouver des solutions. Et surtout, par exemple, on aurait pu imaginer la conditionnalité de la reconnaissance de l'État d'Israël à la concrétisation de l'émergence d'un État palestiniens et d'une résolution du problème des réfugiés qui sont en fait les populations nettoyées ethniquement. Oui. Donc c'est un premier moment qui a été perdu. Un deuxième moment qui correspond à une aggravation en fait, c'est bien sûr la guerre de 1967. Et là encore, plutôt que la communauté internationale ne dise « occupation de nouveaux territoires », On va exiger, et de manière extrêmement ferme de la part de l'État d'Israël, de se retirer. En fait, la communauté internationale ne va absolument pas se bouger. Et quand je dis communauté internationale, à partir de cette période-là, c'est surtout les États-Unis, les Européens, les États européens étant dans une grande dépendance et restant en permanence dans l'ombre des États-Unis. Et on connaît comment la situation a évolué. Un troisième moment très fort, ça a été les accords de paix israélo-égyptiens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'initiative n'est venue ni des États-Unis, ni de la communauté internationale, ni même d'Israël. C'était une initiative du président égyptien de l'époque et qui d'ailleurs l'a payé de sa propre vie. Hein. Donc, Monsieur Sadat. Et dans les accords de Camp David, il y avait un volet palestinien. Donc, l'accord de paix entre les deux pays intégrait toute une dimension palestinienne, et c'est la seule dimension de cet accord-là qui n'a jamais été mise en œuvre. Là aussi, les États-Unis, qui étaient supposés parrainer ce processus de Camp David, n'ont pas levé le petit doigt pour qu'il y ait concrétisation de cette dimension palestinienne. On parlait à l'époque d'une autonomie. Alors, ce qui est bien sûr dramatique pour les Palestiniens, c'est que déjà à l'époque, ils étaient complètement ignorés, que ce soit par les Israéliens que par les Égyptiens. Donc, on ne leur demandait pas leur avis tout en parlant d'eux, de leur devenir. Et puis, bien sûr, on a cet autre moment fort, la première intifada, qui, quelques années plus tard, dans le nouveau contexte, va amener aux accords d'Oslo. Encore une fois, les accords d'Oslo ne sont pas une production américaine. On a d'autres acteurs, y compris palestiniens, israéliens, sous la houlette de la diplomatie norvégienne de l'époque, qui vont réussir à négocier ce fameux accord de reconnaissance mutuelle. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour comprendre que même si c'est un moment qui bouscule beaucoup de tabous, par exemple sur la reconnaissance mutuelle, donc on a les Palestiniens qui reconnaissent l'existence de l'État d'Israël et Israël qui reconnaît les droits à l'autodétermination des Palestiniens. Donc ça, c'est quelque chose de très fort à ce moment-là. Mais les accords d'Oslo avaient des failles structurelles, d'autant plus que vous avez un acteur, en l'occurrence l'État d'Israël, les gouvernements successifs israéliens, qui n'étaient pas en fait désireux d'aller jusqu'au bout de la logique reconnaissance paix contre territoire. Et en fait, ce qu'on a vu très tôt, et c'est vraiment la principale pierre d'achoppement des accords d'Oslo, dès que ces accords d'Oslo vont être mis en œuvre, on va voir augmenter la colonisation des territoires palestiniens, en particulier Jérusalem-Est, qui avait déjà été annexée, mais de manière illégale au regard du droit international, et non seulement une colonisation rampante dans les territoires palestiniens, Cisjordanie notamment, mais aussi des pratiques de bouclage. On va de plus en plus morceler l'espace, empêcher les gens d'aller et de venir plus ou moins librement à l'intérieur même de la Cisjordanie, pas uniquement entre la Cisjordanie et ce qu'on appelle Israël avant 1900, de 1948. Donc en fait, les Palestiniens n'ont jamais connu des effets positifs à Oslo. Et bien sûr, c'est venu conforter les radicaux, ceux qui avaient refusé les accords d'Oslo, parce que voilà, ils étaient perçus comme étant une reddition sans condition, au profit de l'État d'Israël, et que des questions absolument fondamentales comme le droit au retour des réfugiés ou une compensation à ces réfugiés-là, la question de la question de l'institutionnalisation de l'État palestinien, donc tous ces grands dossiers qui sont absolument centraux étaient complètement mis de côté dans les accords d'Oslo, en se disant on va d'abord construire la confiance et puis on va aller vers la résolution de ces dossiers-là. Et on connaît très bien ce qui s'est passé. Plutôt que d'aller vers du mieux, ça, on a été vers du négatif. La violence israélienne multiforme s'est exercée en permanence sur les Palestiniens. Et nous avons eu, côté palestinien, des éruptions de violence, ces attentats suicides qui ont beaucoup marqué les suicides, les esprits. Mais dans le même temps, on a eu aussi des actes d'une extrême violence de la part de juifs israéliens. On peut penser à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, par un extrémiste juif. On peut évoquer le massacre du caveau des patriarches à Hébron en 1994, et ça a été le point de départ de toute une série d'attentats suicides perpétrés notamment par le Hamas et le djihad islamique. Et donc, quelque part, on a créé un contexte post-Oslo qui par nature générait de la violence. Et puis on a pris prétexte de cette violence-là pour dire on arrête tout. Et en fait, alors plutôt que la communauté internationale joue un rôle d'arbitre en disant voilà les arrangements, voilà ce qu'on s'est promis, en fait, ils ont adopté le point de vue israélien, c'est tant qu'il y a de la violence palestinienne, on arrête tout, on arrête d'avancer. En oubliant que la violence palestinienne, elle est déterminée par le niveau de violence multiforme quotidienne exercée par l'État d'Israël dans les territoires palestiniens. Donc vous avez la répression, vous avez les emprisonnements, vous avez les bouclages, donc des villes, des villages, avec bien sûr une précarisation du quotidien, la surveillance quasi continue qui a augmenté sur le long terme. Et donc du coup, on s'est arrêté là. Il y a eu une tentative de sauver le processus de paix au travers d'un nouveau round de négociations entre Israéliens et Palestiniens en 2000, à nouveau à Camp David. Mais là aussi, les Américains ont pris fait et cause pour le gouvernement israélien. Et depuis, sincèrement, on n'a pas vu de véritable effort de paix qui soit crédible. De temps en temps, on a eu l'une ou l'autre gesticulation, on a eu la feuille de route au moment où on avait besoin de faire passer l'invasion de l'Irak à l'opinion publique. Il y a eu un peu plus tard Annapolis, je pense qu'on est en 2007-2008. On a eu évidemment les fameux accords d'Abraham qui, eux aussi, ignorent totalement la réalité palestinienne, qui ont complètement contourné les Palestiniens comme acteurs, détenteurs de ce droit à l'autodétermination. Et en fait, si je devais résumer, à aucun moment la communauté internationale emmenée par les États-Unis n'a été un broker honnête et qui pallie quelque part, le différentiel de puissance entre une population palestinienne qui est, je ne vais pas dire totalement démilitarisée, mais qui a les moyens de lutter du pauvre, ça peut aller de la voiture bélier à l'attentat suicide au couteau, et de l'autre côté, une des armées les plus puissantes au monde. Et dans ces conditions-là, nous, chercheurs, on sait très bien qu'il n'est absolument pas possible d'évoluer vers une pacification. La pacification, elle peut se faire par l'exercice de la force totale. Nous, on sait très bien que ce qui se passe à Gaza pourrait peut-être, par la décimation de la population palestinienne, pourrait stabiliser pendant un temps les choses. Mais ça veut dire qu'il faut tuer beaucoup de gens. Et ça veut dire que les survivants vont aller ailleurs, mais que dans un certain nombre d'années, de décennies, on va retomber dans le même schéma que les années 50, 60, 70, parce que vous avez les survivants qui vont chercher à renverser le rapport de force.
Oui.
Donc voilà. Peut-être je profite pour dire que aujourd'hui, on parle beaucoup de normalisation des relations entre États arabes et Israël, qui se présente comme étant une forteresse envahie par un océan d'États hostiles.
Ouais, ouais.
Il faut garder à l'esprit qu'en 2002, la Ligue des États arabes, donc tous les États, ont mis sur la table un plan de paix arabe qui en fait promettait à l'État d'Israël une reconnaissance pleine et entière et une normalisation pleine et entière des relations, à condition que soit créé un État palestinien digne de ce nom. Et à l'époque, tant les Israéliens que les Américains n'ont même pas pris la peine de répondre. Ce n'est pas qu'ils ont fait semblant de négocier et puis les négociations n'ont pas fonctionné. Ils n'ont même pas pris la perche qui leur était tendue. Et donc, en fait, on a eu toute une série de conjonctures où des choix auraient pu être posés à la fois par les gouvernements israéliens, mais également par les administrations américaines, mais également par les États européens, l'Union européenne, qui pouvaient en fait dire non. Mmh. Eh bien, ces choix n'ont pas été posés et on se retrouve face à une situation extrêmement volatile qui a pu produire un 7 octobre et qui lui-même aujourd'hui a été le déclencheur de quelque chose qui était en gestation, à savoir le génocide des Palestiniens sous nos yeux.
Oui, tout à fait. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour trouver une voie de sortie de cette situation?
Le différentiel de puissance, je le disais, entre les deux parties est incommensurable. Vous avez d'un côté une société qui a été complètement démantelée et dont une partie significative est en train d'être annihilée aujourd'hui. On ne sait pas où ça s'arrête. Je voyais tantôt que M. Netanyahou disait que les Israéliens allaient maintenant utiliser dans la ville de Gaza une puissance jamais vue. Or, tout ce qu'on a vu est déjà du jamais vu. Donc, je me demande pour lui, c'est quoi le jamais vu? Et je vous avoue que je crains plus que le pire pour les Palestiniens de Gaza, et d'ailleurs aussi. Et donc, en fait, je pense que ce qui peut être déterminant, c'est qu'à un moment, il y ait un réveil des puissances qui comptent. Et pas uniquement des États-Unis. Bien évidemment que les États-Unis sont importants. Et on voit aujourd'hui à quel point les pratiques de l'administration Trump viennent booster l'État israélien, le gouvernement israélien, qui fait tout et n'importe quoi. Il s'assied sur la charte des Nations Unies, il va bombarder à droite et à gauche, il fait donc ce qui est une hérésie du point de vue, le sens d'un cessez-le-feu, c'est que les différents acteurs arrêtent de tirer de part et d'autre. Or, par exemple, au Liban, on a un cessez-le-feu unilatéral. On s'attend à ce que le Hezbollah arrête de tirer, ce qu'il a d'ailleurs fait, mais de l'autre côté, on n'arrête pas de bombarder. Il n'y a pas un seul jour au Liban où il n'y a pas un incident grave. Il en va de même en Syrie, alors que les Syriens n'ont pas tiré un coup de feu en direction d'Israël. Donc voilà, on est face à une situation extrêmement grave et comme on dit, c'est la présence de l'administration Trump avec son feu vert qui est donné au gouvernement israélien qui permet ces dérives-là. Mais de l'autre côté, on a une Union européenne, des États européens et malheureusement la Belgique en fait partie, qui sont vraiment en deçà de they do not rise to the challenge, ils ne relèvent pas le défi dans toute sa complexité, dans toute son importance, et ils sont en train de laisser faire l'indicible Alors peut-être certains pensent qu'une fois que Israël aura anéanti les Palestiniens, réussi à rejeter les Gazaouis en dehors de ses frontières, en tout cas les survivants, et que l'État va pouvoir tant bien que mal nettoyer ethniquement la Cisjordanie, on va avoir la paix. Mais nous, on sait très bien que c'est juste impossible. C'est la recette pour des décennies et des décennies d'instabilité dans la région. Et donc, aujourd'hui, sans un réveil ferme de la part des dirigeants européens, les Palestiniens sont déjà dans le désastre le plus terrible, mais bientôt, d'autres sociétés du Moyen-Orient vont l'être également, plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, mais également la société israélienne elle-même, mais aussi, comme on ne sait pas se prémunir d'événements comme le 11 septembre, comme la montée de Daesh, d'Al-Qaïda, on va voir dans un certain nombre d'années le résultat de la violence qu'on laisse faire aujourd'hui dans la région.
Oui, bien entendu. Madame Aoun, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, j'espère que ça a été clair et aussi concis que possible. C'est vrai que c'est des questions très compliquées.
Mais vous avez été très claire, madame. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Bon après-midi.
Bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Il y a un petit théâtre ici.
Voilà, c'était l'entretien avec Elena Aoun. C'était très bien, je trouve. Donc, on arrive à la fin de notre émission, tout doucement. Demain, nous aurons une invitée au studio, c'est-à-dire Baila, de l'émission Trèfle à quatre feuilles.
Ou quand la radio est invitée à la radio.
Exactement. Et c'est une émission sur Radio Air Libre qui parle de la culture juive en Belgique et qui va nous parler des associations antisionistes en Belgique. Voilà. Donc demain, à partir de 15h30. Bonne soirée.
Bonne soirée, à demain.